Mon cher Hugues, pourquoi les chansons et les musiques sont-elles absentes du podcast ?
Ah, c'est une question de droit d'auteur, mon cher Rudy. On vous donne le teaser, mais l'action complète, c'est sur ovio.be.
Donc ici, c'est une sorte d'avant-goût. Et là-bas, sur ovio.be, c'est le festival complet.
La première.
19h-20h.
La semaine des 5 heures.
Hugues Daillé, Rudy Léonet.
Hey, you want?
Bonsoir, mon cher Rudy.
Hey, you want?
C'est quoi ça?
Mais c'est ce que vous venez de me dire avant l'ouverture des micros.
Mais non, je dis when you want.
Je demande à Hugues, est-ce que vous êtes prêt? Il me répond, hey, you want?
Mais non, mais je dis when you want.
Je me dis, bah, autant demander sur dire... le menu le numéro 40 bon, au lieu de dire hey, you want.
J'aurais pu dire comme Robert Dalban dans Les Tontons Flingueurs, are you ready, sir? Voilà, ça vous va?
Ça oui,
vous va
c'est comme très ça très bien, ça bon, me va très allez. Très bien.
Are you ready, Laurent Nellissen? Ah, everybody
oui,
is
oui,
ready.
Thumbs up, oui.
Everybody is ready.
Moi aussi, ready. Ben, c'est bien. En revanche, oui. Je ne suis pas certain que vous serez prêt
à entendre la suite.
À entendre ce que je vais, d'une part, vous raconter et aussi, d'autre part, vous proposer d'écouter.
Et attendez, il y a déjà eu de la K-pop cette semaine-ci.
Oh bah attendez,
hein.
On n'en a pas fini et on va prolonger le plaisir pour certains, en tout cas le mien, avec quelque chose de complètement hallucinant.
Bon, heureusement, c'est vendredi.
Oui, c'est vendredi. Et le vendredi, on prend une habitude de, voilà, d'ouvrir avec des bizarreries. Mmh. Mais celle-ci est particulièrement...
Choupie.
Elle est choupie. Elle est totalement choupie.
Alors, est-ce qu'elle sort de la boîte à chatons?
En quelque sorte.
Ah bon?
En quelque sorte. Bon, je vous pique.
Oui, okay. Allez-y. What you want?
Je voulais vous parler de Hatsune Miku. Alors, Hatsune Miku,
oui.
C'est une synthèse vocale qui a été développée par une filiale de Yamaha. C'est donc une banque de voix qui utilise un logiciel qui s'appelle Vocaloid et ça permet, il y a plusieurs générations, on est à la 4 je crois, et ça permet absolument à n'importe qui, vous, moi, Laurent, ou
de faire un nouvel album des Chipmunks par exemple. Non.
Pratiquement.
Oui, pratique
en fait,
pas.
Ça permet de faire chanter son ordinateur en entrant juste en transcript des paroles et en jouant une mélodie de façon musée, genre plus des paroles. Et alors, le logiciel
fait le reste.
C'est devenu extrêmement populaire et dans le choix des différentes voix proposées par Vocaloid, Yamaha s'est rendu compte que les utilisateurs optait toujours pour la voix de Hatsune Miku, en laissant un peu les autres de côté. Du coup, cette voix populaire
elle fait des GPS
a attiré...
La... Elle fait des GPS.
Oui, c'est
aussi.
Un peu le principe... Des... Non, elle ne fait
ça.
Pas des GPS, elle fait beaucoup mieux.
Oui.
C'est un peu le principe des GPS, vous pouvez choisir la voix.
Accent canadien.
Voilà. On pourrait imaginer, en fait, que une des voix les plus populaires sur un GPS Garmin ou embarqué sur une marque de voiture quelconque devienne tellement populaire qu'on se mette à faire chanter cette voix.
Mm-hmm.
Et c'est ce qui est arrivé avec Hatsune Miku. Non seulement elle chante, mais en plus, elle se produit sur scène, sous forme d'avatar. Alors, ce qui est révolutionnaire, c'est que quand vous avez, par exemple, la modélisation sous forme d'hologramme de La Calasse ou Abba.
Oui, surtout Abba.
Ou surtout Abba.
Voyage.
Voilà.
Oui.
Ou Dalida.
Oui.
Voilà. On part d'un personnage réel.
Qu'on modélise
vivant ou décédé. Mmh. En tout cas, Abba, toujours
oui.
vivant.
Et ensuite, officiellement. Oui.
Et ensuite, avec des capteurs, et des calculs très très savants, on modélise la personne pour la faire se mouvoir sur scène et interpréter. Mais ici, dès le départ, on a affaire à une voix sans corps. Ce corps, il était créé par des artistes qui sont spécialisés dans le manga, et donc on a une espèce de Sailor Moon aux cheveux bleus, voilà, et qui donne des concerts depuis déjà à peu près une dizaine d'années. Mais il faut voir comment ces concerts ont évolué. Au départ, c'est une espèce de plaque de verre ou de plexi transparente sur laquelle on fait une projection et on voit les musiciens derrière. Mais ça reste quand même si elle bouge au rythme de la musique, si elle chante, s'il y a des chorégraphies, ça reste de la 2D. Mais aujourd'hui, c'est un véritable personnage 3D autonome qui se présente sur scène et c'est totalement bluffant. 1 600 000 auditeurs mensuels sur Spotify pour écouter ses chansons. 200 000 chansons sont disponibles sur iTunes. Elle a un répertoire de 200 000 chansons. Et cet artiste...
C'est plus encore bien, que Didier Barbelivien.
C'est énorme. Oui, c'est pas normal.
Non.
Mais forcément, puisque ce sont des logiciels qui créent à la demande, ils peuvent enregistrer 3 albums en une nuit.
Enfin, oui.
Et cette Hatsune Miku, en Chine, se place comme la 15e artiste préférée des Chinois. Alors qu'elle est totalement virtuelle. Déjà en 2014, Lady Gaga, qui est toujours à l'affût de nouveautés, l'avait emmenée avec elle en première partie de sa tournée américaine.
Ah oui.
Et aujourd'hui, et pour la première fois, Hatsune Miku sera en concert en Belgique. Elle sera le 28 octobre prochain à l'ING Arena. Et je peux vous dire que dans le microcosme qui s'intéresse à ce type de culture,
de performance,
la venue d'Hatsune Miku en Belgique est un véritable événement, d'autant qu'elle vient avec la toute dernière version du logiciel, qui est absolument, en termes de représentation graphique en 3D et en live, absolument bluffante.
Et la playlist
Je vous donne... Ça, c'est le pitch. Oui. Maintenant, voilà ce que j'avais envie de vous donner à entendre. Un exemple du répertoire qui change selon les soirs, puisqu'ils peuvent de façon aléatoire aller chercher... Il suffit de charger le personnage et de charger les chansons. Et il y a des musiciens qui accompagnent. Ils sont dans des espèces d'aquariums de verre. Enfin, il y a une scénographie qui est,
Il
dingue.
Il doit prendre un pied formidable.
Ben, c'est nos limites, parce qu'elle peut s'envoler. Elle peut... Il n'y a aucune limite à la représentation, puisqu'elle est 100% virtuelle. Voilà donc Hatsune Miku.
C'est un exemple.
Écourtez, les concerts durent 2 heures.
Et pourquoi est-il nécessaire d'avoir des musiciens sur scène? On ne peut pas se contenter d'avoir des synthés sur lesquels on fait clic.
Si, ça pourrait.
Oui.
Je suppose que
il pourrait
ça...
y avoir un type qui mange une banane, par exemple, en appuyant sur une touche de
synthé. Dans un groupe bien connu.
Bien connu.
Oui, c'est vrai. Je suppose que d'avoir des éléments humains sur scène participe en fait à la scénographie et à la mise en scène pour donner l'illusion de la réalité qui est en fait virtuelle.
Oui, mais on ne peut pas modéliser les musiciens également.
Mais bien sûr, on pourrait.
Oui.
Mais en vrai, il y a... peut-être qu'en fait, les musiciens sont ceux qui appuient sur le bouton dont vous venez de parler, parce que
Un peu comme dans les shows télévisés où il y a des figurants qui... font semblant de taper sur les batteries derrière.
Voilà, et puis c'est peut-être un peu aussi des gens qui jaugent à quel moment il faut lancer le morceau suivant selon l'enthousiasme, la longueur des applaudissements. Voilà. Donc Hatsune Miku, c'est un événement, parce que là on est en train vraiment...
Mais
technologiquement, économiquement, on est en train d'entrer dans une nouvelle ère. Un personnage 100% virtuel, n'ayant pas de date de naissance, ils ne se sont même pas, si vous voulez, penchés sur le fait de lui créer une fausse histoire, une fausse identité. Vous savez, un personnage de fiction qui aurait une histoire, elle vient de là, elle aurait fait ceci. Pas du tout, elle n'a aucune... C'est juste le personnage qu'elle a. Évidemment, il ne vieillit pas, il n'évolue pas. Elle a tout le temps la même tenue, la même coiffure. Simplement, ce qui évolue, c'est la technologie qui est au service de ce show virtuel.
Est-ce que Julien Clerc ne les a pas contactés pour ne pas vieillir?
Si.
Pour ses prochains concerts.
Si. Et Patrick Bruel a également des contacts.
Une option.
D'accord. Donc ça sera
non,
pour...
mais non, Patrick est au Jazz Festival de Gand.
Oui, mais bon.
Il est tellement jazz, Patrick.
Oui, mais.
Il est jazz.
Patrick, c'est un joueur d'échecs. Il est déjà.
De poker.
Oui, et de poker, il est déjà un coup d'avance.
Ouais.
Donc il pense déjà à la suite et à son album pop.
Hatsune Patoche.
Hatsune Patoche. Voilà, Hatsune Miku, c'est pour le 28 octobre.
Wow. Eh bien, à... vous...
Oui, à l'ING oui. Arena.
Eh ben, vous m'avez donné un bon coup voilà. de latte dans les tibias. Là.
Et pour les fans, la billetterie,
moi,
c'est pour la semaine prochaine.
Moi, je vais aller dormir.
Voilà. Vous voulez un peu de vraie musique ?
Ça ne me déplairait
poursuivre.
Pas. Ça
là, c'est de la vraie, de chez vraie musique. Je voulais revenir sur la bande originale de cette série de New Look qui est sur Apple.
Oui, où il y a à chaque fois un classique du jazz ou un standard revisité par un interprète contemporain.
Eh ben absolument. Et cette fois, puisque c'est Jack Antonoff, le producteur, qui est à la manœuvre de cette BO, il s'est attaqué à une chanson de 1934 qui vient du répertoire initialement mexicain, une chanson de Maria Grever qui s'appelle What a Difference They Make et qui a connu un énorme succès dans une version disco interprétée par, je pense... Esther Phillips, voilà, qu'on a dû entendre aussi dans quelques films qui évoquaient le disco à l'époque. Pas dans Saturday Night Live. Saturday Night Fever.
En le réentendant, je me trouverais voilà, peut-être
What
des
a Difference They Make. Mais au départ, c'est plutôt une balade. Et alors là, il a fait appel à Perfume Genius, qui est un musicien américain, dont la voix est souvent comparée à celle de Anthony and the Johnsons. Enfin, aujourd'hui, Anthony, puisque Anthony est devenu... un peu comme les frères sœurs Wachowski est devenu Anthony and the Johnsons. Et Elton John est un grand, grand fan de Perfume Genius, dont il vante dès qu'il le peut les mérites et avec lequel il souhaiterait collaborer. Il est vraiment très, très admiratif de son travail. Donc, c'est sur la BO de The New Look, la série Apple TV, et c'est Perfume Genius avec What a Difference a Day Makes.
What a difference a day makes. And the difference is you.
Perfume Genius, What a Difference a Day Makes, sur le soundtrack de New Look.
Nous venons d'entendre une vraie chanson avec un vrai chanteur. Je vous propose de voir une vraie série avec des vrais acteurs, pas encore modélisés. Et ce qui a attiré mon attention, mon cher Rudy, c'est que c'est déjà le retour.
J'ai envie de dire « I won ».
Eh bien, ce qui a attiré mon attention, mon cher Rudy, c'est le retour déjà de Raphaël Quenard.
Ah, déjà ? Ah,
oui, mais,
oui mais dans la chronologie, c'était...
C'est antérieur.
C'est antérieur
ouais.
à Yannick. Et
Ouais. C'est une mini-série de 4 épisodes qui vient d'arriver sur Arte. Je vous disais que l'offre sur Arte cette semaine était... Ces derniers jours étaient particulièrement riches. Elle s'intitule « Citoyens clandestins » au pluriel. 4 épisodes de grosso modo 52 minutes. Et c'est une série d'espionnage. En fait, c'est l'adaptation d'un roman policier qui date déjà de 2007 de Doha, qui a eu le Grand Prix de la littérature policière. Et l'action nous reporte en 2001. En pleine psychose l'attentat des Twin Towers et les services secrets en France découvrent que 2 fûts de produits extrêmement toxiques ont été achetés en Syrie par une personnalité assez trouble, un Libanais qui vit en France. Et pour eux, c'est le signe avant-coureur de préparation d'un attentat terroriste sur le territoire français. Alors, ça, c'est le point de départ. Évidemment, on va assister non pas à une guerre des polices, mais une sorte de rivalité entre les différents services secrets, le ministère de l'Intérieur, la DGSE. Chacun veut un peu travailler dans son coin. Ça, c'est un des éléments. Et pour que le spectateur ne soit pas complètement perdu dans ces méandres, eh bien, il y a un vieux journaliste, blanchi sous le harnais, qui est incarné par Pierre Arditi, qui va écoller une stagiaire et lui expliquer justement toutes les forces en présence. C'est une petite scène assez utile qui s'insère bien dans cette série pour que le spectateur ne soit pas complètement largué. Donc il explique, voilà, il y a des rivalités entre un tel et un tel, mais bon, moi je suis beaucoup trop... trop connu, ce serait bien, dit-il à sa jeune stagiaire, que tu avances, parce que tu es vierge de tout passé, et peut-être que certaines portes vont s'ouvrir plus facilement pour toi. Et cette jeune journaliste, donc sous la houlette de son vieux mentor, eh bien, va tenter de mener l'enquête, et on va découvrir plusieurs personnages importants dans l'intrigue, dont un jeune Français d'origine beurre, mais qui est une taupe infiltrée dans les quartiers immigrés de Paris et qui essaye de et dans les réseaux islamistes et qui essaye de glaner des renseignements. Évidemment, situation extrêmement casse-gueule et inconfortable, comme toute situation de taupe, parce que si sa couverture est découverte, il risque sa vie. Et on suit en parallèle les travaux d'un ancien agent qui est joué par Frédéric Pierrot, vous savez, qui joue le psychanalyste dans la série En Thérapie, également gros succès sur Arte, et qui lui a un homme de main chargé de toutes les basses besognes, joué justement par Raphaël Quénard. Et c'est intéressant de le voir dans ce rôle de barbouze, mais où il a des dialogues beaucoup plus retenus. Il n'y a pas sa tchatche qu'on avait pu découvrir dans Chien de la casse ou dans Yannick. Il garde forcément sa diction particulière qui vient de sa cloison nasale, comme il le dit si bien. Mais c'est intéressant de le découvrir dans ce rôle parce que on voit que, bon, on ne peut pas parier sur le futur, mais que ce n'est pas un feu de paille. C'est-à-dire que...
Il a
une gamme et il peut franchement être crédible aussi dans ce rôle souterrain, dramatique, assez inquiétant, puisque c'est le type qui va faire tout ce que les officiels de la DGSE ne veulent pas faire. Et parmi ces officiels de la DGSE, il y a le toujours excellent Laurent Stocker, oui. Acteur de la Comédie française, qu'on venait de voir dans un le rôle de Sarkozy dans le faux biopic de Bernadette avec Catherine Deneuve. Il est toujours absolument impeccable et donc lui tire les ficelles. Et puis sur le terrain, il y en a justement qui risquent de se casser la gueule. Alors évidemment, quand on voit cette série d'espionnage française, inévitablement on pense à la référence suprême de ces dernières années qui est le Bureau des légendes réalisé par Éric Rochand. Et évidemment, cette mini-série pâtit de la comparaison parce que le Bureau des légendes, c'était une véritable fresque qui avait énormément le temps d'installer tous les personnages dans des intrigues très très touffues avec des Rochand n'a pas travaillé seul, il y a eu plein de co-scénaristes, mais il y avait le temps servait vraiment, la durée servait vraiment la qualité de la série. Ici, c'est donc basé sur un roman policier, c'est l'équivalent grosso modo de 3 heures de vision. Et il faut bien dire que je disais que la mise en place, heureusement qu'il y avait le personnage du journaliste par Pierre Arditi qui explique un peu qui est qui, mais malgré tout, on est quand même assez perdu dans ce premier épisode en se demandant qui est qui. Qui plus est, c'est étonnamment mis en scène par Laetitia Masson, qui est une cinéaste qui vient tout à fait du cinéma d'auteur intimiste français, plutôt des drames psychologiques et pas du tout des polars. Donc on est assez étonné.
Quoi, ce que je connais son nom.
Oh, Laetitia Masson, elle avait surtout aidé à la découverte il y a très longtemps de Sandrine Kiberlin dans En avoir ou pas. Elle a fait À vendre, elle a fait des films avec... Elle a fait La Repentie avec Isabelle Adjani et récemment elle a fait, mais je pense que les films n'est pas sorti chez nous, Un hiver en été, une fresque à plusieurs personnages avec entre autres Benjamin Biolay. Mais elle vient tout à fait... elle vient pas du tout du cinéma de genre, elle vient beaucoup plus du cinéma d'auteur, je dis impressionniste. Donc ça, c'est assez étonnant de la voir s'embarquer dans cette aventure. Et on dit que c'est pas vraiment, vraiment, vraiment peut-être la personne la plus indiquée pour adapter cette chose.
Elle avait adapté Christine Angot, pourquoi pas le Brésil, il y a 20 ans.
Voilà. Et donc, c'est un drôle de casting que ce soit elle qui soit à la manœuvre dans cette série. On aurait plutôt imaginé un Cédric Gimenez, quoi, le réalisateur de Novembre ou le réalisateur de Bac Nord, qui aurait probablement fait quelque chose de plus carré, mais aussi de plus lisible pour le spectateur. Cela étant, donc, ça pâtit de la comparaison avec d'autres films du même genre, mais D'abord, c'est intéressant parce qu'on a envie de suivre Raphaël Quénard qui vient d'avoir le César de la meilleure, de la révélation masculine grâce à Chien de la Casse, et dont on a envie de voir ce qu'il a dans le ventre. Et que plus la série avance...
Oui, on va quand même pas l'ouvrir pour voir ce qu'il a dans le ventre.
Non, non.
Genre docteur Maboul. Sauf si vous dites,
voilà.
Alors,
et donc, voilà. C'est intéressant pour ça. Et puis, franchement, plus la série, cette mini-série avance, si on a un peu de patience, elle tient quand même relativement ses promesses et parvient à conclure l'intrigue de manière assez satisfaisante. Donc voilà, ça s'intitule « Citoyen clandestin ». C'est une des nouveautés sur Arte. Et je vous disais, au générique, j'en ai cité trois, mais il y en a d'autres. Hein. J'en ai même cité quatre. Il y a même la présence de Marc Zynga aussi, comédien belge. Enfin, il y a forcément tellement de personnages que ça... Il y a des ramifications dans tous les sens. Et donc, on découvre pas mal de monde. Voilà, donc... disponible sur arte.tv.
Normal, le on est Arte, vendredi, quoi. Donc ouais. C'est fin de semaine, donc on est plutôt sur des plateformes gratuites.
Voilà.
Vous êtes un peu une sorte d'agent infiltré d'Arte et d'Ovio dans la semaine des 5 heures. Attention de ne pas vous faire démasquer.
C'est mon côté service public. Ouais. Ouais. Non, ouais. Ouais, attendez, mais là, j'ai lu des chiffres, la plateforme d'Arte, mais casse la baraque. Et non, par rapport au score qu'a toujours fait la chaîne en France, on est dans une proportion infiniment plus grande.
Alors oui, parce qu'on plaisante avec la gratuité, même si ce n'est pas du tout une plaisanterie, mais à côté de la gratuité, il y a un aspect qualitatif,
où
on peut pratiquement, on peut faire confiance et voilà, en fonction de l'humeur du moment,
c'est incroyable,
on est rarement déçu.
C'est incroyable, comme justement, c'est une chaîne qui a totalement pris le train au bon moment, quoi. Ce qui n'est pas, vous savez, vous connaissez toute l'histoire des chaînes de France Télévisions qui ont essayé de s'unir pour faire une offre. Ça a complètement capoté. Donc voilà, là, on peut d'autant plus saluer cette réussite.
Voilà. Et puis, la plateforme est ergonomique et
oui, c'est pas
très
mal.
Très très facile d'utilisation,
voilà,
et multi-plateforme.
Voilà, tout à fait. Voilà. Donc
très bien.
Citoyen clandestin, au pluriel.
Sur Arte. Je suis un peu embarrassé parce que après Hatsune Miku, je vais devoir un peu payer le loyer et donner quelque chose en échange pour rééquilibrer cette semaine des 5 heures. John Cale.
Écoutez, c'est votre problème.
Hein. Oui, mais je sais.
Chacun sa aime. Hein, oui.
Est-ce que je vous ai demandé de partager ou d'aider? Non. Politique de la main tendue, zéro. A1.
Hey, donc, n'oubliez pas que c'est moi qui ai imprimé vos feuilles aujourd'hui.
Oui,
hein. Attention, hein.
Hey.
Je peux encore les déchirer. Hein.
Une fois en 30 ans,
oui.
C'est pas de refus. Donc John Cale, mon cher Hugues, revient.
Il faut nous excuser, chers amis auditeurs, c'est vendredi, mais c'est aussi le lendemain de la veille.
Oui.
On est un peu fatigué par cette ambiance de feu à la COD à Verviers, la reprojection de Tandem de Patrice Lecomte. Donc voilà, toutes nos excuses.
Oui, oui,
voilà.
Oui.
On est un peu dissipé, mais nous sommes
un
là.
Un peu euphorique.
Mais
aussi,
nous sommes là. Voilà.
Donc c'est le retour de John Cale.
Oh,
ça peut faire le poids par rapport à Hatsune Miku. On rééquilibre.
J'ai interviewé John Cale. J'ai rien compris.
Ah oui.
Il avait un accent, je ne comprenais rien. J'étais jeune, je ne comprenais rien. Poliment. J'essayais de poser 3-4 questions. Mais voilà, ça fait partie des expériences de vie. Vous avez déjà essayé John Cale?
Non, jamais.
Il a un accent difficile et en plus il marmonne, donc c'est pas facile.
Vous savez, c'est aussi mon esprit de service public qui m'engage à vous proposer John Cale aujourd'hui, que je n'écoute pas volontiers à la maison, mais pourquoi pas.
Oh, son album avec Brian Eno était formidable.
Oui. Donc évidemment,
Long Time Ago.
Historiquement, membre du Velvet Underground. Oui. Collaborateur régulier de Brian Eno, et puis aussi artiste solo. Il approche des 80 ans, donc on est loin de Willie Nelson à 90 ans. Il a à son actif une bonne centaine d'albums, si on compte également les collaborations, mais on est loin des pratiquement 170 albums de Willie Nelson, qui sera sur le prochain Beyoncé, hein,
oui.
Willie. Il sera sur le prochain Beyoncé. Wow. Dingue. Ah wow. Oui, non, mais le retour de la country... Oui,
ça efface tout son passage.
C'est plus qu'un retour, c'est une c'est une invasion.
Bon, qu'est-ce qu'il nous fait, John Cale ?
Et donc, un nouvel album qui sortira le 14 juin, qui a pour nom Poptical Illusions. Et vous allez me dire, oui, mais c'est son retour après combien de temps ? Un an. C'est son deuxième album en un an.
Ah oui.
Donc, en fait, il n'arrête pas vraiment. On ne peut pas vraiment parler de comeback ou de retour. C'est juste, dans un rythme tout à fait normal pour lui. Donc, un nouvel album qui sortira en juin. Et de cet album, on a déjà... Enfin, il s'appelle Poptical. Donc, on se dit, voilà, il va sans doute tourner plutôt vers une musique plus pop, plus accessible. On va juger avec ce premier titre qui vient d'arriver et qui a pour nom « Oh, we see the light ». C'est le nouveau John Cale.
C'est chouette.
C'est pop.
C'est chouette.
Voilà.
Et moi, j'aime bien quand il y a des ouh derrière. Formidable.
John Cale, bientôt dans le hit parade.
Oui.
En numéro 3, Jennifer, il gagne 2 places cette semaine. John Cale.
Oui. Et après, Kenji Girac, nous écoutons
John Cale avec son nouveau tube. Il est numéro number 2. Sacré John.
Vivement qu'on refasse un bon hit parade. Bien.
Mais ça existe toujours.
Oui, mais nous.
J'écoute parfois sur une chaîne concurrente, néanmoins, Endemi, le hit parade le week-end. C'est effrayant. Comment l'animateur, il doit être sous substance, qui essaye de faire croire qu'il y a un suspense pour savoir qui est numéro 1. C'est fou. C'est de la radio d'il y a 50 ans.
Ouais.
C'est complètement dingue.
C'est chouette. Vous avez été du côté des plateformes payantes parce que vous voulez rentabiliser votre abonnement.
Exactement.
Donc vous vous dites, quoi qu'il arrive, je regarde.
Non, moi je m'intéresse à savoir ce qui intéresse notre public.
Ah,
et je me dis, tiens, ils se sont massivement...
C'est-à-dire, il y a votre public et puis il y a mon public et les deux font un public.
Et les deux font plus que la somme des individualités.
C'est évident.
Et donc je me suis penché sur une série très très attendue sur Netflix et qui a pour nom « Three Body Problem ». En français, le problème à 3 corps, traduction littérale.
C'est sous ce titre-là qu'on le retrouve.
Le problème à 3 corps, absolument. 8 épisodes de 50 minutes, c'est précisé saison 1, et vous allez comprendre, les autres saisons vont forcément arriver. Peut-être qu'il y avait un doute dès le départ, mais ce doute, je pense, il est complètement levé grâce au succès de la série. Un doute parce que c'est une série qui coûte extrêmement cher, pas forcément le casting, qui est impeccable, mais qui sont des visages pour la plupart peu ou pas trop connus. C'est quoi le problème à 3 corps ? Alors pour les fans de science-fiction...
Quelle origine ? Américain, anglais, allemand ?
La série est américaine, mais elle est inspirée, basée, adaptée d'un best-seller chinois.
Ok.
Un best-seller en 3 tomes, 2000 pages, et c'est donc le premier tome qui est adapté ici. On peut imaginer qu'il sera...
Et rassurez-moi, vous avez lu le roman originel avant de regarder la série, comme de coutume.
Bien entendu.
D'accord.
Toujours, pour pouvoir comparer l'œuvre littéraire et son adaptation, évidemment. Donc, 3 tomes pour ce best-seller sorti aux alentours de 2005 de Liu Cixin. Je crois que ça se prononce Cixin. C'est donc un récit de science-fiction ancré dans une réalité technologique, scientifique, de laquelle on part. C'est à peu près la formation de cet écrivain. Il a une base scientifique avant de devenir un romancier, avant de devenir un auteur. Il a une formation de physicien. L'ouvrage est extrêmement complexe et on est sur quelque chose de réputé totalement inadaptable. Parce que énormément de théories, énormément de projections dans le futur sur oui, mais si cette théorie s'applique et est vérifiée, est-ce qu'on pourrait éventuellement aller plus loin et vérifier, valider cette théorie ? Donc on est parti dans une exploration hypothétique de formules scientifiques qui pourraient, les unes après les autres, amener des choses qui sous-tendent l'intrigue et le récit de cette fiction de science-fiction. On est entre de l'anticipation et de l'extrapolation par rapport à des choses qui sont avérées aujourd'hui. Plutôt que de tourner autour du pot, je vous le pitch. Tout d'abord, on entre dans les années 1960, lors de la révolution culturelle en Chine, et une jeune femme, brillante, dont le père était professeur de physique à l'université et était victime du régime de Mao parce qu'il a enseigné la théorie de la relativité et s'était considéré comme une théorie de traître, puisque Albert Einstein était citoyen américain, donc forcément vendu, et que cette théorie n'était pas validée par le régime chinois. Or, ce professeur l'enseignait dans son cours de physique. Sa fille était une de ses élèves brillantes. Lui a été tué lors d'un procès public sur la place en Chine. Et donc, cette jeune femme devient prisonnière du Parti communiste. Et dans une prison, une cellule absolument abominable, on vient la chercher et on lui dit « voilà une proposition, vous intégrez un programme scientifique qui se trouve dans une forteresse parce que le programme est ultra secret. Le problème, c'est que vous aurez un traitement tout à fait humain, vous serez bien traité, mais vous n'en sortirez jamais. Parce que vu votre profil, vous allez accéder à des documents top secret. Donc, hors de question de sortir de là, vous serez sous surveillance. Et c'est une prison dorée à vie. » Elle accepte, elle n'a pas trop le choix. Et à l'intérieur, elle se dit, bah, tiens, dans sa nouvelle prison, quel est le projet qui est développé et mis en place? Est-ce que c'est une arme? En fait, non, c'est un système de communication avec l'espace. Deuxième volet, on se retrouve en 2024 et les événements qui s'y déroulent semblent tous liés à ce projet scientifique des années 60. Et beaucoup de scientifiques, jeunes pour la plupart, ont leur cerveau quelque part piraté et voient des choses extrêmement menaçantes dont ils n'arrivent pas à se débarrasser. Et leur cerveau part en vrille et on leur propose un deal, ce qui apparaît sur des écrans. Si vous arrêtez vos recherches scientifiques, toutes vos illusions d'optique, tous vos cauchemars vont disparaître, on vous laissera en paix. Alors pourquoi on essaye de les entraver dans leurs recherches scientifiques? Pourquoi leurs programmes font peur et à qui? Pourquoi? Comment leur cerveau est piraté? Ce sont toutes ces révélations qui vont s'enchaîner et qui vont entremêler toute une série de destins chahutés, de relations interpersonnelles entre tous ces jeunes scientifiques qui se connaissent et qui sont tous frappés par le même fléau, le même syndrome, et se demandent pourquoi, d'où ça vient. Qu'est-ce qu'on leur veut?
Donc on va expliquer ce qui s'est passé en fait entre 1960 et 2024, je vous comprends
oui,
bien.
Oui, même s'il y a un gap par certains flashbacks, on va comprendre.
Est-ce qu'on attrape une petite migraine avec cette série?
Oui et non. Franchement, quand vous voyez les premiers épisodes, chaque épisode ayant coûté le budget de 20 millions de dollars par épisode, on a un traitement en CGI qui est absolument incroyable. Ils ont confié le projet, je vous le dis encore, qui était jugé inadaptable au producteur de Game of Thrones. Donc on est quand même dans une certaine ampleur et des gens qui savent gérer des histoires, des récits et des mondes assez problématique à recréer, c'est pas une chose qui est totalement évidente. Et donc, dès le départ, avec ce projet de communication avec l'espace, on n'est pas très très loin du Arrival de Denis Villeneuve. Et dans le traitement à la fois des sciences, de leur extrapolation, ici on sort du réel, mais on n'est jamais de très très loin de théories qui sont aujourd'hui démontrées. On est un peu chez Oppenheimer, quelque part. Et dans le traitement des images et des mondes qui seront développés de différentes manières, parfois dans le réel, parfois avec des casques virtuels, vous comprendrez dans l'intrigue, on n'est pas très très loin de Inception. Donc on est quand même dans une série qui a des standards très élevés et qui propose quelque chose, alors vous disiez la migraine, quand même de relativement exigeant. Mais ça reste par rapport au livre qui est très très qui développe beaucoup de théories scientifiques très
ici, très incarné.
Très abstraites, il faut s'accrocher. Ici, bah comme c'est illustré par le fait qu'on est passé dans l'adaptation en images et en mise en scène, ça reste quand même extrêmement distrayant, sans pour autant lâcher de l'exigence qui était celle du livre de ce romancier de science-fiction chinois. Évidemment, on en arrive à quelques explications au bout de la saison 1, mais comme je vous le disais en ouverture, on est sur 3 tomes, on reste sur quelque chose d'extrêmement haletant en fin de saison 1, et on n'a qu'une envie, c'est de savoir, mais quelle sera la suite? Évidemment, ceux qui ont lu le bouquin connaissent la suite, mais ceux qui l'ont lu doivent se demander aussi comment ça va être traité de façon cinématographique par les showrunners et les responsables de la production de Game of Thrones qui sont à la manœuvre. Ce qui est dommage, probablement, c'est que c'est quand même un projet complexe et ambitieux, et donc je ne pense pas que la saison 2 va arriver très très vite. Or, pour attaquer la saison 2, je pense qu'il faut avoir bien en tête tous les paramètres qui sont dans la saison 1, parce que si on s'y perd en cours de route et que la saison 2 arrive fin 2025, on est bon pour tout revoir. Voilà, ça c'est vraiment le bémol, mais l'ampleur du scénario est monumentale et la réalisation est à la hauteur, je pense, des attentes. Je crois que les fans du bouquin ont tous validé cette adaptation sur Netflix, donc le problème à trois corps, c'est juste une équation avec plusieurs dimensions, ou un problème à 2 corps est assez facile à résoudre. Dès que c'est 3, on est avec une dimension supplémentaire. Et ici, ça va évidemment s'accélérer pour prendre une trajectoire totalement inattendue et qui dépasse même l'entendement. Donc il faut un peu s'accrocher, mais c'est divertissant et c'est extrêmement intéressant. Et ça revient, pour conclure, à ce que je disais la semaine dernière à propos de la série allemande de Signal. Bah, dans un monde où l'homme n'est plus capable de dialoguer, où les peuples, les races, les religions n'arrivent pas à établir des passerelles, des dialogues, une communication, est-ce que l'arbitrage, finalement, ne va pas venir d'ailleurs, parce que ici sur Terre, il est impossible de trouver des terrains d'entente. C'est toujours un peu ce qui est sous-tendu pour l'instant dans ces films de fiction qui font appel à des intelligences venant d'ailleurs. Ami ou ennemi, c'est ce qu'essaye de démontrer, ou en tout cas d'expliquer cette série. Voilà, le problème à 3 corps, c'est sur Netflix, et ça vient d'arriver, et c'est déjà, je pense, en tête de visionnage des séries dans pas mal de pays dans le monde.
Très bien. Bon, après l'octogénaire John Cale, une jeune chanteuse.
Oui, des Américains basés à Los Angeles et dont la chanteuse est portoricaine. Elle s'appelle Maria et du coup son projet s'appelle The Marias. Ils existent déjà depuis 5 ou 6 ans et ils produisent systématiquement des chansons hyper catchy, hyper immédiate. Mais je ne sais pas pourquoi ils n'arrivent pas à rentrer en contact avec, là aussi un problème de communication, avec leur public. On les a vus déjà au Botanique, voilà. Mais ce sont les éternels espoirs. Et c'est dommage parce que leurs chansons devraient normalement adjuger leur statut de groupe à tube, ce qu'ils n'arrivent pas réellement à atteindre malgré les efforts. Donc ils viennent de publier une nouvelle chanson qui, comme toutes les autres, est aussi catchy et immédiate. Est-ce qu'elle fera la différence? Elle s'appelle Run Your Mouth et c'est les Américains de Marias. De Marias avec cette chanson Run Your Mouth. C'est immédiat, non? Je ne comprends pas pourquoi ça ne fonctionne pas, de Marias.
Ça, je n'ai hélas pas la réponse.
Moi non plus. On n'a pas toujours la réponse. Ah,
écoutez,
à tout,
moi je trouve déjà que John Cale doit rentrer dans le hit.
Oui, on oui, oui. Déjà...
voilà, je pense que ce serait justice.
C'est déjà pas mal.
Il fait des ouh. On va donner un petit mode d'emploi pour la semaine prochaine, mon cher Rudy, parce
attends,
que
je note,
elle
alors.
Est un petit peu différente. Bon, y a, c'est le week-end de Pâques, il y a lundi de Pâques, mais nous serons présents.
Vous voulez rire? Le jour des cloches, c'est notre jour.
Nous... Nous serons,
on sera là lundi.
Nous serons présents lundi soir pour évoquer l'actualité cinéma du mercredi, comme de coutume. Et on traitera cette actualité cinéma dans les émissions de lundi et de mardi. Et mercredi, vous l'aviez déjà signalé, mais pour les distraits, on le répète, mercredi, nous céderons ce créneau de 19-20 heures à l'Eddie Show, à Eddie Kappelberg,
ah oui,
qui sera en direct de l'ouverture de la Foire du Livre, avec, j'imagine, un panel d'invités. Et on reviendra alors jeudi et vendredi, plutôt pour évoquer l'actualité des séries et des
c'est
plateformes,
vrai,
comme de coutume. Voilà, donc les distraits, nous serons bien présents lundi, mais nous ne le serons pas mercredi prochain.
Je vais mettre une alerte.
Mais de toute façon, mercredi, vous allez voir Ecoen de Bunnymen.
Oui,
donc de toute façon, vous n'auriez pas été là.
C'est vrai. Voilà. C'est vrai. Mais on sera là le jour des cloches, hein. Ça, c'est important.
Avec quoi peut-on se quitter?
Mais écoutez, mon cher Hugues, on va se quitter avec un duo belge, bruxellois, enfin en tout cas basé à Bruxelles, qui s'appelle Ascendant Vierge, dont on parle relativement peu, et pourtant c'est 15 millions de streams sur Spotify.
Ascendant Vierge,
C'est Mathilde Fernandez et Paul Seul. Ils sont partis en tournée fin 2023, et c'est passé par New York, Berlin, Paris, Barcelone, Londres. C'est un des projets belges francophones les plus visibles sur la scène internationale. Ils viennent de Bruxelles. Ils
francophones, néerlandophones.
Francophones. Et ils viennent, contre toute attente, de livrer une chanson, une nouvelle chanson, qui a pour nom Lotus Noir.
Bientôt un concert ?
Pas pour l'instant. Juste une chanson, mais on imagine que, comme leur réputation, ils la font aussi sur scène, on imagine qu'ils seront bientôt de retour sur scène avec peut-être d'autres nouvelles chansons. En tout cas, ce single vient d'arriver, Lotus Noir, et cette Ascendant Vierge, et on se dit joyeuse Pâques
et à lundi pour voir si vous avez reçu vos œufs en bonne et due forme.
J'espère. Bon. Ascendant Vierge.
Retrouvez tous les podcasts de la RTBF, dont de nombreux inédits, sur RTBF Audio.